Bonjour à tous, bienvenue dans la Grande Table, dans la vie des idées aujourd'hui, la question de notre gouvernabilité avec le philosophe Grégoire Chamaillou. Il publie La Société Ingouvernable à la Fabrique Édition, un anti-manuel de management qui montre comment dans les années 70 s'est opéré par le haut la reprise en main d'un système de gestion qui commençait à se fissurer, à retrouver après le journal de Thomas Cluzel. Mais d'abord, elle est le visage de la culture sur France 5, après avoir été celui des JT de fin de semaine sur TF1 pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, elle monte sur scène pour Podane, spectacle d'ouverture du théâtre Marigny après 5 ans de travaux, une féerie musicale adaptée du film de Jacques Demy sur une bande-son signée Michel Legrand, à voir jusqu'au 17 février à Paris. Claire Chazal est notre invitée, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Préparez votre pâte dans une jatte, plate. Et sans plus de discours, allumez votre puis creuser. Choisissez quatre frais, qu'ils soient du matin frais, car à plus de 20 jours, un poussin sort toujours.
Bonjour Claire Chazal.
Bonjour Olivia.
Vous connaissez la suite?
Alors je ne connais pas vraiment bien exactement les paroles, alors que nous la reprenons tous à la fin du spectacle. Il va falloir s'y mettre d'ailleurs, mais on connaît évidemment le refrain.
Bien crémeux s'il vous plaît, de sucre parsemé, et vous amalgamez. Une main de parfum, un souffle de levant, une larme de miel, et un soupçon de.
Alors, une larme de miel et un soupçon de sel, c'est peut-être ça l'essentiel qu'il faut retenir et ne pas oublier de glisser un petit présent amoureux à l'intérieur de sa pâte qui cuira ensuite pendant une heure. Qui ne connaît pas la recette du cake d'amour, Claire Chazal, ne connaît pas l'amour, n'est-ce pas?
Ah, ça c'est une question, ce serait peut-être un peu facile s'il suffisait de la connaître pour trouver l'amour. En tout cas, on a envie de tomber amoureux de cette jeune Podane. Je précise que la voix, elle est très jolie de Marie Hopper pour ce spectacle. Nous séduit, elle a une fraîcheur. C'est évidemment une jeune fille. Et en même temps, comme vous dites, il y a du sel parce que le sujet est un peu subversif, ou en tout cas particulier de ce conte.
Pas facile, effectivement, pour Marie Hopper aussi, de succéder à Catherine Deneuve. Et que dire des autres, Jean Marais, Jacques Perrin. Le cake d'amour, extrait du nouvel enregistrement de Podane chez Sony Classic. Sous la direction du toujours très grand Michel Legrand, avec l'orchestre du théâtre Marigny et avec les voix du spectacle, dont celle légère de Marie Hopper. C'est une féerie, ce Podane que le théâtre Marigny a choisi pour sa réouverture. De l'amour, il en est question quand même tout au long de cette pièce. Et vous êtes la narratrice sur scène, vous ouvrez le bal, vous le refermez et vous intervenez au milieu avec ces mots. Tu cherchais l'amour, alors il faut continuer, c'est une question de confiance.
Oui, c'est vrai. J'ai un rôle particulier parce que, d'abord, c'est un rôle modeste, mais c'est vrai qu'il ouvre le spectacle et qu'il le clôt en tirant d'une certaine façon la morale, la leçon du conte. Donc je ne suis à la fois sur scène, mais pas un personnage. Au fond, je fais un peu ce que j'ai fait toute ma vie, c'est-à-dire que je raconte. Alors j'ai raconté l'actualité du monde, là je raconte autre chose. J'essaye de trouver le ton qui va convenir revenir à cette féerie, à cette magie, au fond, à quelque chose qu'on peut raconter à un enfant, même si ce sont des sujets graves et qui demandent des explications. Et ça me fait très plaisir d'être dans la troupe pour porter ce spectacle. Oui.
Et le nouveau directeur du Théâtre Marigny, Jean-Luc Choplin, dit qu'il est venu vous chercher, que c'était presque une évidence parce que vous étiez la fée du JT. Vous revoilà donc sur scène.
Je racontais parfois des horreurs, mais j'essayais effectivement de le faire avec le plus de douceur possible.
On a des dossiers sur vous, hein, Claire Chazal, parce qu'il y a un livre qui est sorti au printemps dernier chez Grasset, un livre pour vous raconter, puisque tout passe, fragment de vie. Vous y parlez de votre rapport au métier, à la profession de journalisme, à vos amis, à vos angoisses aussi que vous racontez avec toujours beaucoup de pudeur. Vous parlez aussi de votre relation à l'amour, puisqu'on a ouvert sous ce signe-là. Et vous racontez que l'un de vos amis vous a dit « Toi, au fond, tu es une athée de l'amour. » Et vous êtes assez d'accord avec ça?
Je ne suis pas en désaccord. Peut-être est-ce une question de génération. C'est vrai que j'ai plus l'âge de peau d'âne et au fond de rêver. Mais je ne suis pas sûre quand même d'être partie dans la vie avec cette forme d'idéal. Je ne sais pas si instruite des générations précédentes, de ce que j'avais vu aussi, de ma famille, de mes parents, de ma mère. Je ne sais pas si je ne suis pas partie avec une idée un peu pessimiste ou en tout cas plutôt sombre. Voire un peu découragée. Parfois, la vie m'a montré que je n'avais pas forcément tort. Alors, il faut y croire, bien sûr, mais je crois que le monde a changé, que les codes familiaux ont explosé, que les modèles traditionnels ne sont plus les mêmes et qu'il faut retrouver quelque chose. Voilà, où l'amour aurait sa place.
Une affaire de confiance, une affaire de croyance, l'amour. Vous écrivez la violence, les tensions, les incompréhensions, les incessants malentendus. Voilà ce qui l'emporte. Dans mes bouffées de souvenirs amoureux, c'est la peur de souffrir qui me détourne aujourd'hui de l'amour. Ma relation aux hommes, antagonique, inégale, embarrassée, inconfortable. Alors, est-ce que peau d'âne, elle a toutes les raisons d'y croire? Sur la première lecture de cette féerie, on pourrait se dire, bon, on apprend d'assez jolies choses aux petites filles, prince charmant, les belles robes, tout ça, c'est quand même
ça
assez
existe,
efficace.
Voilà. C'est beau,
et ça peut exister.
C'est merveilleux.
On peut le rencontrer, le prince charmant. Mais comme toujours chez Perrault, le conte a une dimension qui est beaucoup plus sombre. Ici, c'est évidemment celle de l'union incestueuse, puisque son père, après la mort de la mère, veut l'épouser. C'est une exploration aussi du complexe d'Electre qu'on retrouve dans cette chanson de la fée des lilas.
La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quel que soit pour lui vos sentiments, mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et des législatures décidées avant le temps, on ne marie pas les filles avec leur papa. Un prince, une bergère peuvent bien s'accorder quelquefois. Mais une fille et son père, c'est ma foi, un échec assuré, une progéniture altérée. Mon enfant, il vous faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants. Et vous rencontrerez un charmant vin du pied ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymne insensé. Vous offrira ses présents, mais il vous faudra auparavant vous conformer au plan que j'ai conçu pour vous savamment. Mon enfant, ne craignez pas les égarements, je vais vous éclairer brillamment, je vais vous protéger, j'ai pour vous un chemin par mes soins tout tracé. Et de grâce, écoutez, j'ai tout manigancé.
En français sur scène.
Voilà. Alors que la chanteuse Emma Kate Wilson est formidable, anglaise, a beaucoup travaillé dans des comédies musicales, notamment dans Singing in the Rain qu'on a vu au Châtelet, puis au Grand Palais. C'est une actrice formidable.
Chanteuse. C'est une vraie gymnastique pour elle entre le changement de langue et les rollers, puisqu'elle est.
Ah oui, elle a fait 5 ans de spectacle sur roller aux États-Unis. Donc elle.
C'est le psychanalyste Bruno Bettelheim qui a travaillé sur cette question de la lecture psychanalytique qu'on pourrait faire de Podane. Quelle est la vôtre de lecture? Si on met Podane sur le divan.
Oui, je ne sais pas. Bien sûr que d'emblée, on se dit qu'une petite fille, c'est ce qu'il dit dans le conte, a au fond toujours été d'emblée amoureuse de son père et qu'il faut transgresser cela ou transgresser des tabous pour oser dire « je vais épouser ma fille quand on est le roi ». Bien sûr que chaque enfant cherche un modèle, et notamment pour une petite fille un modèle paternel ou un modèle sexuel, mais peut-être qu'en amour on recherche aussi toujours le père, je ne sais pas. Tous les contes de fées ont un contenu psychanalytique si on veut, mais il faut aussi y voir autre chose, il faut y voir aussi l'amour avec le prince, ça nous rassure d'une certaine façon de voir que ce prince et cette jeune Podane vont tomber amoureux, on y croit d'ailleurs, et les enfants peuvent entendre aussi tout cela. Je crois que d'ailleurs on peut vraiment raconter aux enfants des choses parfois difficiles, parfois graves. Je crois que si on leur explique, c'est tout à fait, et ça ne les empêche pas de rêver.
Voilà, et Bruno Bettelheim parle de ce passage de l'immaturité à la maturité que les contes de fées permettent aussi, de ce miroir magique qu'ils nous tendent aussi pour comprendre à la fois les tourments et la lumière de nos univers intérieurs. On leur apprend aux enfants aussi que malgré l'amour qu'on leur porte, il faut apprendre à dépasser la figure du père et de la mère, qu'il faut apprendre aussi à s'en séparer, à s'en émanciper. Cette séparation, la perte des parents, ça a été un obstacle pour vous difficile à franchir dans la vie, comme pour beaucoup, dans Puisque tout passe, fragment de vie toujours chez Grasset. Vous racontez ce moment, vous en parlez, et vous dites que quelques mois ont passé depuis la mort de votre mère, peu de temps après celle de votre père, que vos parents ne sont plus là, que les idées noires se bousculent, qu'il faut accepter de se retrouver en première ligne désormais, que la mort et la vie sont deux passages.
Je crois qu'on cherche de toute façon toujours d'où l'on vient, comment on a été formé, qu'est-ce qu'on nous a transmis et qu'est-ce qu'on est capable à son tour de transmettre quand on a un enfant. Moi, ça a été ma quête et j'en ai pris conscience sans doute davantage quand ces parents-là ont disparu. Encore une fois, c'est ce que tout le monde vit, ils étaient âgés, mais on se retrouve naturellement en première ligne, on pense qu'on n'a pas tout dit, qu'on aurait pu leur dire autre chose, les choses s'apaisent aussi, bien sûr, ils ont eu leurs propres souffrances, et mes parents ont été obligés de se battre beaucoup dans la vie, car ils étaient issus d'un milieu très modeste et qu'ils se sont élevés dans cette hiérarchie sociale grâce à l'élitisme républicain et à leurs propres efforts. Donc c'était notre morale. Et moi, c'est vrai que j'ai essayé de m'en affranchir, ou en tout cas, enfin, on parlait de Podane, je ne sais pas si j'ai cherché la figure du père, en tout cas, j'ai essayé de changer de vie, au fond, de changer aussi mes perspectives, d'en garder quelque chose, d'en tirer des leçons naturellement, et je crois très importantes, notamment sur le courage, sur la volonté, mais aussi j'ai cherché un autre principe de vie, j'ai cherché un principe de plaisir, j'ai cherché quelque chose qui était ce sel de la vie dont vous parliez. Je crois que pour eux c'était difficile, c'était des enfants, des jeunes de la guerre, des jeunes du milieu ouvrier, et il n'en était pas question. Et nous, nous avons eu d'autres perspectives. C'est pas toujours facile, hein, mais nous avons eu cette chance-là de le faire. Donc c'est un mélange, quand les parents disparaissent, on fait un bilan et on en tire le bien et aussi des sont moins positives.
Et dans ce bilan, qu'est-ce qu'ils vous ont transmis? Qu'est-ce que vous retenez surtout de cette transmission qu'il s'est faite entre eux et vous? Est-ce que c'est déjà cette passion pour la culture?
Alors il y avait...
Ou c'était des valeurs avant tout?
Oui, c'était des valeurs très importantes chez moi, car mes parents ont fait des études, alors que vraiment, je crois que leur milieu les prédestinaient pas à cela, ou en tout cas, il n'y avait pas cette connaissance-là dans leur famille, mais eux ont eu cette volonté. On ne sait pas pourquoi, ils se sont d'ailleurs trouvés peut-être là-dessus, ils sont devenus instituteurs. C'était leur façon, bien sûr, de sortir de leur milieu, d'être autonome financièrement, puis après de faire des études. Mon père a passé l'ENA, concours fonctionnaire. C'était ce qui les animait, ils aimaient les livres. Évidemment, leur culture principale était livresque, elle n'était pas tellement le spectacle vivant ou autre chose, ils sortaient très peu, mais ils lisaient, c'est ce qui les unissait, et j'ai toujours vu ça à la maison. En tout cas, moi, j'ai eu envie de lire très tôt, c'est ce qui m'a aidée, j'ai aimé ça, j'étais peut-être un peu solitaire et j'aimais retrouver les livres. C'était pas forcément d'ailleurs les lectures que ma mère, qui était professeure de français, m'indiquait, même plutôt pas du tout, mais j'ai aimé lire très vite, oui. Et d'ailleurs, pas tellement des contes de fées, finalement, mais autre chose. Et c'est ce qui m'a apporté, c'est ce qui m'a nourri. Puis après, moi, j'ai découvert seul, avec des amis, avec des entourages, avec cette espèce de recherche qu'on avait après mai 68, de ce qui était une culture différente, ce qui était une culture militante, ce qui était une culture plus audacieuse. Et donc, j'allais dans les théâtres de la périphérie, j'allais voir des ballets contemporains, j'allais écouter de la musique, et là j'y suis allée par moi-même, donc je me suis fait mon petit univers culturel qui n'a après jamais cessé de s'enrichir finalement.
Fragment. Ma mère est morte, mon père s'est éteint un peu de temps avant elle, et me voilà bancale, en quête d'un nouvel équilibre. Geste mécanique, oubli, le cœur et les pensées s'affolent. La sensation de ne plus aborder la vie calmement, mais d'accomplir les tâches quotidiennes de façon saccadée, désordonnée, l'esprit au bord du gouffre, le silence rend fou. Pour Podan aussi, c'était un nouvel équilibre à trouver.
La reine est morte. La reine est morte. La reine est morte.
Dans Podane, Claire Chazal, vous êtes la narratrice. Votre pratique de la danse, que vous racontez beaucoup aussi dans cet ouvrage, puisque tout passe fragment de vie, cette parenthèse quotidienne et vitale telle que vous l'écrivez, est-ce que ça a été une béquille dans ces moments-là, ce que vous vivez chaque soir sur scène? Vous avez commencé vraiment hier, mais est-ce que cette pratique de la danse aide à maîtriser le corps quand la peur ou le trac peut-être vous saisir quand vous entrez seul sur scène?
Moi, ça a été considérable pour moi, c'est ce que j'ai écrit, mais c'est pour tout. J'ai aimé faire de la danse, la découvrir quand j'étais petite. J'étais pas assez douée pour en faire mon métier. Je l'ai regretté longtemps. Et puis, bien sûr, j'ai aimé ce que j'ai fait. J'adore ce métier de journaliste. Et je n'ai pas de regrets. Mais c'est ce que j'aime. Et cette discipline, cet univers, cette façon de se retrouver dans un monde qui n'est pas du tout le mien, pratiquement quotidiennement, avec des jeunes ou des moins jeunes qui ont des aspirations qui ne sont pas les miennes, qui ne sont pas forcément dans mon univers. Mais ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée physiquement et mentalement. Ça m'a aidé à affronter aussi les directs longs du journal, et Dieu sait s'il y en avait, parce que tout simplement j'ai éprouvé ma force physique. Je suis allée dans cet effort-là, et je me suis dit, si j'ai ce souffle-là, je vais bien le garder pour faire un journal, et je vais donc l'affronter. Et ça m'a aidé, bien sûr, après la fin du journal, où c'était un peu brutal, et c'est ce vide qui s'est retrouvé devant moi, ces matinées vides, ces semaines un peu vides, je les ai comblées grâce à cette routine quotidienne qui n'était pas une routine, qui était un rendez-vous heureux avec ce moment qui n'était qu'un moment à moi. Donc oui, ça m'a sauvée. Aujourd'hui, ça m'aide encore. C'est un plaisir, c'est rechercher le beau geste, c'est rechercher une belle ligne, c'est être en harmonie avec la musique. C'est pas que l'effort physique, c'est aussi la recherche du beau. Et c'est ça qui me plaît.
Et c'est regarder droit devant soi. Et le soir sur scène au Théâtre Marigny, c'est un public que vous voyez. Alors j'imagine que cette question du trac à la télé, on vous l'a souvent posée, parler devant combien? C'était au JT 6 millions.
Parfois 10 millions le dimanche, hein, dans les grands moments de TF1, pendant très longtemps, on avait environ 10 millions de personnes le dimanche soir, oui.
Mais alors est-ce que vous avez plus le trac là, sur scène, au Théâtre Marigny, parce que le public, il est présent, on le voit.
Bien sûr.
On voit ses réactions.
C'est pas la même chose. Alors sur un plateau, il y a des techniciens, tout le monde est concentré sur le même même objectif, mais on n'entend pas le silence, on ne perçoit pas l'écoute. Moi, je l'ai perçu quand j'ai fait des lectures, j'en ai fait souvent, et là, c'est autre chose, on est tout seul en scène et pendant une heure, mais ce sont des lectures. Et là, j'avais déjà, évidemment, l'appréhension de... Est-ce qu'on m'écoute bien? Est-ce que ce silence est de qualité? Et c'était passionnant d'ailleurs, bien sûr. Et là, c'est encore autre chose. D'abord parce qu'il faut mémoriser un texte, il faut se déplacer, et il faut surtout être dans une troupe, c'est-à-dire être à l'unisson, finalement, à participer à cette aventure sans faillir, en étant le mieux possible, et en trouvant le ton.
Et, il n'y a pas de fiche, pas de prompteur.
Voilà. Il faut quand même... ouais. Alors, ce n'est pas très long. Hein. On peut mémoriser le texte, mais c'est intéressant à faire d'ailleurs. Mais il faut trouver ce ton entre l'adresse à un enfant, l'adresse à une salle, à un adulte, quelque chose qui n'est pas de la littérature, mais qui n'est quand même pas du langage parlé, quelque chose qui n'est pas l'actualité du monde, mais une féerie. Voilà, je cherche ça.
Ce serait pas mal, faudrait essayer. Quels sont les premiers mots avec le ton du JT? Là, c'est le drame. Sa mère est morte.
Ouais. Non, j'essaie de prendre un ton en dessous, au plus calme, en tout cas prendre son temps. C'est le silence aussi qu'on n'apprend pas à la télévision ou à la radio, encore que sur France Culture, ce qui est très beau aussi, je trouve, ce sont les silences. Et c'est une des rares radios à le faire, et c'est merveilleux. Mais enfin, pour un journal de télévision, on ne peut pas. Et là, sur scène, c'est ce qu'il faut rechercher, le calme, la tranquillité, le pas lent.
Midi 22 sur France Culture, notre invitée Claire Chazal, à l'occasion de la réouverture du Théâtre Marigny à Paris, qui met en scène Podane.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Claire Chazal, c'est Jean-Luc Choplin, le nouveau directeur du nouveau Théâtre Marigny, qui est venu vous chercher pour participer à cette adaptation du film mythique de Jacques Demy. Il parle de vous comme de la fée des écrans, on le racontait. Il vous a donc choisi pour cette réouverture. Choplin, c'est un nom qui vaut gage de qualité dans le milieu, quand on connaît sa passion pour les comédies musicales, la passion de celui qui les a littéralement importées de Broadway au Théâtre du Châtelet.
Évidemment, il faut d'abord donner une âme. Il faut d'abord donner une couleur, des couleurs. Il faut avoir une ambition. Il faut faire rêver. Il faut apporter de la folie et en même temps avoir les deux pieds sur la terre. Mais je l'ai fait de façon que j'appelle un peu haute couture. Ces comédies musicales qui font venir Suzanne Graham, une des plus grandes chanteuses d'opéra, grande soprano américaine, dans Le Roi et moi, avec Lambert Wilson, de faire venir Sylvia Schwartz dans La Mélodie du Bonheur, etc. Je veux dire, tous ces chanteurs lyriques à qui j'ai proposé cette aventure de la comédie musicale. Suzanne Graham m'a dit en partant du Roi et moi, j'ai une aventure absolument formidable, mais je ne le ferai qu'une fois dans ma vie. C'est trop difficile, la comédie musicale. C'est un art, en soi, il faut tout faire. Il faut chanter, il faut danser, il faut faire la comédie, il faut être dans un ensemble. C'est beaucoup plus difficile que de faire juste ou choriste d'opéra ou chanteur lyrique et de faire vos trois airs, un par acte, des opéras.
C'est un art et c'est un art populaire, la comédie musicale. Est-ce qu'on sait y faire avec ce type d'art, nous les Français, pour vous,
Claire
Chazal ?
C'est la grande question, Olivia, c'est vrai. Et c'est une question à laquelle, effectivement, Jean-Luc Choplin a répondu brillamment au Châtelet. D'abord parce qu'il avait une très grande connaissance du monde anglo-saxon, du monde musical anglo-saxon, qu'il est donc allé chercher, effectivement, comme on l'entend dans Le Roi et moi, etc., des grandes productions de Broadway, mais... Et c'est ça aussi qui était formidable, c'est qu'il nous a présenté des spectacles, notamment Singing in the Rain, pour lesquels il est allé chercher d'autres metteurs en scène qui ont donné leur patte européenne, j'allais dire, alors qu'il est canadien, Robert Carson, le metteur en scène, mais c'est pas un Américain de Broadway. Et il a apporté une autre esthétique qui a même intéressé les Américains de Broadway, donc il a pu exporter ce spectacle. Donc il a su faire de cette comédie musicale américaine quelque chose que le public français aimait. Et c'est tout à fait remarquable. Alors je crois qu'il va essayer de faire ça à Marigny, un peu différemment, bien sûr. Mais en tout cas, il veut faire quelque chose de singulier à Marigny, qui est un merveilleux théâtre, bien sûr, très bien refait, pratiquement 1000 places. Il ne veut pas faire un théâtre privé traditionnel, il veut aller chercher autre chose. Il a d'ailleurs demandé à Robert Carson un spectacle. Il va faire plus du théâtre musical, peut-être de la danse. En tout cas, je crois qu'on peut lui faire confiance.
Avec vous aujourd'hui, c'est un peu de télé qui arrive sur la scène d'un théâtre, le Théâtre Marigny. Il faut se souvenir quand même qu'à l'époque, c'était le Théâtre Marigny était ce morceau de théâtre qui arrivait, lui, dans le petit écran avec Au Théâtre ce soir. extrait d'une représentation avec Francis Perrin, Amstramgram 1976.
On les a regardées beaucoup, ces pièces qui étaient filmées, effectivement, de façon non pas plate, mais en tout cas à la place du spectateur. Et nous entendions les trois coups. On voyait Jacqueline Maillan, on voyait Jean Poiret, Michel Serrault. Enfin, c'était extraordinaire. Sophie Desmarais. Enfin, c'était un théâtre privé, de boulevard, mais... avec des grandes figures comiques extraordinaires.
Et oui. Pas d'animateur, et pas de débat après, et pas d'interview des comédiens à ce moment-là.
Non, c'est vrai. Alors c'est formidable d'entendre les des 70. Comédiens, mais c'était pas ça.
Aujourd'hui, bon. On fait moins ça, des oui. captations simplement présentées comme telles. Comment vous abordez cette question, c'est-à-dire comment parler de culture et surtout de spectacle vivant à la télé aujourd'hui?
Alors, moi j'ai la chance d'animer depuis 3 ans un magazine quotidien qui s'appelle Entrée libre sur France 5, donc c'est extraordinaire, c'est unique en Europe. On essaie d'aborder tous les sujets, on essaie surtout de donner envie d'aller voir des spectacles. On cherche des angles qui ne soient pas uniquement de la promotion de spectacles, mais qui ouvrent évidemment sur d'autres horizons, qui éclaire le spectateur, le téléspectateur, et c'est à la fois éclectique, exigeant, mais non élitiste, et je crois qu'on essaie de le faire dans l'entrée libre, avec des journalistes spécialisés, cultivés, passionnés, avec un invité le lundi aussi.
Avec un nouveau format depuis la rentrée qui vient compléter Entrée libre, ça s'appelle Passage des
Exactement.
Arts.
Exactement.
Et là, vous êtes plus sur le temps long.
Voilà, et là, la question que vous posez sur les captations, elle est... On y répond à notre façon, puisque France 5 et Nathalie Darrigrand a décidé d'ouvrir une case le samedi soir, en deuxième partie de soirée, et là, de permettre le visionnage, de regarder un spectacle entier. Et c'est extraordinaire. Et ce sont des captations qui, aujourd'hui, sont faites avec plus de moyens qu'à l'époque du théâtre ce soir. Donc, il y a de l'opéra, il y a de la danse, des spectacles de grande qualité, que ce soit à la Bastille, mais aussi dans des opéras de province, qui ont été captés par France Télévisions, qui sont là, dans notre stock, et qu'on donne aux téléspectateurs. Et moi, j'essaye de les présenter, de les mettre en valeur, de donner envie. En fait.
J'entendais récemment Anne-Sophie Lapix dire qu'elle essayait de remettre de la culture dans le journal télévisé. C'était aussi pour vous quelque chose d'important quand vous étiez au journal, au JT de TF1. Mais comment, est-ce que vos choix de l'époque étaient très différents de ceux que vous faites aujourd'hui? Quand vous dites cette balance entre élitiste, populaire, est-ce que les objets, les produits culturels que vous choisissiez de présenter au JT avant sont les mêmes que vous présentez aujourd'hui sur France 5?
Non, bien sûr, bien sûr, nous savions à qui nous nous adressions sur TF1, et c'est d'ailleurs, il n'y a aucun mépris, évidemment, mais c'est vrai que moi, je crois que j'ai tenu personnellement à faire que les 5 éditions du week-end, pendant 25 ans, aient un sujet culture au moins. Donc il y en avait au moins 5 par week-end, il y avait des expositions, où on voit bien les queues devant le Grand Palais, ou le Louvre, ou Orsay, ou etc. Mais il y avait aussi du théâtre, il y avait du cinéma, de la danse, de l'opéra. On m'a souvent accroché à TF1 en me disant que ça allait ennuyer tout le monde, ce sujet sur l'opéra, mais je ne crois pas. Je crois qu'on peut transmettre quelque chose, donner envie. Alors bien sûr, dans Entrée libre, nous sommes beaucoup plus larges, beaucoup plus pointus, beaucoup plus modernes peut-être, et c'est formidable. Mais ouvrir dans des journaux télévisés une petite fenêtre sur le monde de la culture, moi j'estime que oui, j'en suis assez fière. C'est ce que j'aime aller voir moi-même, et je vais essayer de le transmettre.
Et c'est un nouveau rôle pour vous, une nouvelle incarnation depuis quelques années. Donc la culture après l'information. Voilà, changement de peau, là encore. Peau d'âne, le spectacle est à voir, adapté du film de Jacques Demy, jusqu'au 17 février à Paris, au Théâtre Marigny, qui vient donc de rouvrir. Merci beaucoup à vous,
Claire Chazal. Merci beaucoup, Olivia. Merci.